Merci à vous d'écouter Radio France Internationale. Il est 19h30 à Paris et à Alger, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir sur RFI.
Et c'est l'heure de retrouver toute l'actualité sur le continent pendant 30 minutes avec vous, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Rebonsoir Romain Ouzoui, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'actualité africaine, l'interpellation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal samedi 16 novembre à son arrivée à Alger. Les raisons de cette arrestation non confirmées officiellement restent inconnues. Elle a eu également la nomination du général Abdoulaye Maïga à la primature au Mali. Il succède à Choguel Maïga, limogé lui, hier soir après des propos très critiques contre les militaires au pouvoir. Nous parlerons également des législatives au Sénégal. Le raz-de-marée du parti PASTEF est confirmé par les résultats officiels publiés par la commission électorale du recensement des votes. Nous irons aussi au Niger pour parler cette fois de l'avenir de la Semaïr, la société des mines de l'Aïr détenue à 63% par Orano. C'est le dernier site d'uranium exploité au Niger par le groupe français. Oui, en Algérie, l'écrivain Boualem Sansal est depuis près d'une semaine maintenant en garde à vue dans les locaux des services de sécurité à Alger, la capitale. Il attend d'être présenté devant le procureur de la République. Faisal Metaoui, Boualem Sansal risque une peine de prison pour atteinte à l'unité nationale.
Boualem Sansal, qui revient souvent en Algérie sans être inquiété par les autorités, a été interpellé à Dalbaïda, à l'est d'Alger, quelques minutes après avoir quitté l'aéroport international Houari Boumedienne le samedi 16 novembre 2024. D'après des sources informées, des agents de sécurité en civil l'ont fait sortir de sa voiture et lui ont demandé de les suivre. Après la période d'interrogatoire, qui peut durer plusieurs jours, l'auteur franco-algérien devrait être présenté devant le procureur de la République d'Alger ou de Boumerdès, ville située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale où réside Boualem Sansal. L'interpellation de l'écrivain n'a pas encore été annoncée officiellement, mais selon les mêmes sources, la poursuite pénale engagée contre lui serait liée à de récentes déclarations faites à un média français sur, je cite, l'appartenance de certaines villes de l'ouest algérien comme Oran et Tlemcen, au Maroc. Boualem Sansal pourrait être poursuivi pour, entre autres, atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays et incitation à la division du pays, des chefs d'inculpation passibles de peine de prison selon le code pénal algérien. Faisal Metaoui, Alger, RFI.
Au Mali, le général Abdoulaye Maïga est le nouveau premier ministre de transition. Le décret présidentiel annonçant sa nomination a été lu ce jeudi, peu avant midi, heure locale, sur l'ORTM, la télévision nationale. Et hier soir, les Maliens avaient appris de la même manière la révocation de Choguel Maïga et de tout son gouvernement. Révocation à laquelle il a réagi de manière offensive la nuit dernière sur les réseaux sociaux. David Bachet, après quelques jours de flottement, le rythme s'accélère. La nomination du général Abdoulaye Maïga était également très attendue.
Oui, le général Abdoulaye Maïga connaît déjà le poste. Il avait assuré l'intérim à la primature lorsque Choguel Maïga avait eu des problèmes de santé. Abdoulaye Maïga était jusqu'à hier soir ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Il ne fait pas partie des cinq militaires qui avaient mené le coup d'État en 2020, mais il a rapidement su gagner leur confiance et s'imposer en pilier du régime de transition. Abdoulaye Maïga est d'ailleurs passé du grade de colonel à celui de général en même temps qu'Assimi Goïta et que les autres militaires putschistes au mois d'octobre. Sa nomination n'est donc pas une surprise. Il a désormais la charge de former un nouveau gouvernement de transition. Avec quelle personnalité, quelle mission et pour combien de temps? Alors que l'annonce d'élection semblait proche, certains acteurs politiques maliens craignent que cette nouvelle séquence ne repousse encore la fin de la transition.
Et David Choguel Maïga, le Premier ministre limogé, semble lui bien décidé à rester présent sur la scène politique malienne.
C'est ce que laisse penser le message qu'il a publié sur les réseaux sociaux cette nuit, quelques heures à peine après avoir été limogé. À ceux qui l'accusent d'avoir servi le régime pendant 3 ans et demi par opportunisme, Choguel Maïga répond qu'il a fait preuve de patience pour faire avancer les choses dans le bon sens. Il dénonce la mission de déstabilisation dont il aurait été victime de la part d'anciens alliés de son mouvement, le M5-RFP, de certaines institutions de la transition ou de membres du gouvernement. Choguel Maïga vise directement celui dont il pouvait se douter qu'il allait lui lui succéder, le général Abdoulaye Maïga, qui aurait clandestinement créé une centaine de nouveaux partis politiques à son insu. Des partis formés, selon l'ancien Premier ministre, de vrais ennemis de la transition, d'agents doubles et de mercenaires mis à contribution pour exiger sa démission. Jogel Maïga ne dit rien de ses projets politiques, mais beaucoup lui prêtent des ambitions présidentielles.
Merci David Bachet. J'ajoute que la composition du nouveau gouvernement du général Abdoulaye Maïga a été présentée cet après-midi même. Aucun changement majeur. Le général Sadio Camara reste à la défense. Le général Ismaël Ouagé à la réconciliation. Abdoulaye Diop est confirmé aux affaires étrangères et Alousseini Sanou à l'économie. Au Sénégal, c'est désormais officiel. Le parti au pouvoir, le PASTEF, remporte haut la main les législatives anticipées du 17 novembre. Les résultats officiels viennent d'être proclamés par la Commission nationale de recensement des votes. Léa Lisa Vesteroff, vous êtes sur place à la cour d'appel de Dakar. Le raz-de-marée du PASTEF est donc confirmé.
Oui, Zéphirin, le parti d'Ousmane Sonko emporte 130 sièges sur les 165 qui composent le Parlement. On est bien au-delà de la majorité qualifiée des 3/5 qu'espérait décrocher le PASTEF. Le parti des Patriotes contrôle désormais 78% du Parlement. Il l'a emporté dans 40 des 46 départements que compte le pays et 7 des 8 circonscriptions de la diaspora. Une victoire sans appel, donc, et inédite depuis 1988 et la victoire du Parti Socialiste du président Abdou Diouf. Jamais depuis, un parti n'a fait le choix d'aller à des législatives seul, sans l'aide d'une coalition comme le PASTEF aujourd'hui. Face à cette razzia, comme l'a qualifié la presse sénégalaise, la coalition Takoualou, emmenée par l'ancien président Macky Sall, devient la première force de l'opposition, avec 16 sièges seulement. Pour comparaison, la coalition de Macky Sall en avait 83 dans la législature précédente. En troisième position, l'ancien Premier ministre Amadou Ba, avec 7 sièges. Et enfin, la coalition du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, décroche 3 sièges. Uniquement.
Et dès dimanche soir, les principaux candidats de l'opposition, Léa Lisa, avaient reconnu la victoire sans appel du PASTEF. Et est-ce que certaines formations ont prévu justement de déposer des recours ?
Alors aucune annonce en ce sens pour le moment, mais les partis ont 48 heures pour contester les résultats. Certaines des 41 formations politiques candidates étaient présentes à la proclamation ce soir. Du côté de la coalition d'opposition de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, on parle de fierté, de sérénité. La volonté populaire s'est exprimée, affirmait la représentante de cette coalition. Jamak Diarine accepte les résultats. Il n'y aura pas de recours, a-t-elle dit. Satisfecit aussi, bien sûr, du côté du PASTEF. Le représentant du parti s'est réjoui de l'adhésion massive du peuple avec près de 50% de taux de participation. Il a promis que la nouvelle assemblée se mettrait au travail dès la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire au plus tôt dans 5 jours s'il n'y a aucune contestation.
Merci Léa Lisa Vesteroff, direct de Dakar où il est actuellement 18h38.
Afrique Soir sur RFI.
Et place au dossier d'Afrique Soir qui nous emmène aujourd'hui dans le nord du Niger avec cette question. Quel avenir pour la Somaïr, la société des mines de l'Aïr qui emploie 750 personnes dans la zone d'Arlit est détenue à 63% par Orano et à 36% par la société d'État nigérienne Sopamine. C'est le dernier site d'uranium exploité au Niger par le groupe français. Le permis d'exploitation du site d'Imouraren lui a été retiré en juin dernier dans un contexte de tension, je vous le rappelle, entre le Niger et la France depuis le coup d'État de juillet 2023. Niamey affiche aussi sa volonté de souveraineté sur ses ressources minières. La Somaïr connaît actuellement des difficultés financières, affirme Orano, qui a donc décidé de suspendre les dépenses liées à la production. Les précisions de Magali Lagrange.
La suspension des dépenses liées aux activités d'extraction et de traitement du minerai n'est que provisoire, tempère Orano, en attendant que les conditions soient réunies pour exporter la production. Actuellement, plus de 1000 tonnes de concentré d'uranium sont bloquées, selon le groupe français, qui affirme donner la priorité au maintien des salaires. Pour Gilles Récochet, directeur responsabilité, engagement et communication d'Orano Mining, la situation de la Somaïr est préoccupante.
Depuis 16 mois, la Somaïr est empêchée de commercialiser sa production du fait de la fermeture côté Niger de la frontière avec le Bénin. Et aujourd'hui, se trouve dans une situation vraiment très dégradée.
La décision de suspension provisoire a été votée en conseil d'administration la semaine dernière. Les représentants de la Sopamine ont quitté la salle au moment du vote, fait remarquer Orano. De leur côté, les autorités nigériennes contestaient déjà en début de mois cette décision. Gilles Récochet.
Il n'y a pas de dialogue. Nous, ce que l'on souhaite, c'est continuer à produire. C'est une longue histoire et on ne souhaite pas qu'elle se termine de cette façon. On invite la partie nigérienne à revenir à la table de la discussion et d'entendre que la situation financière de Somaïr ne lui permet pas de continuer à fonctionner en production.
Depuis l'arrivée des nouvelles autorités au pouvoir, le Niger affiche sa volonté de réorganiser son secteur minier en toute souveraineté. Le ministre des Mines a indiqué ce mois-ci à Sotchi avoir rencontré des sociétés russes intéressées par l'exploration et par l'exploitation des ressources naturelles du Niger.
Malgré cette décision votée en conseil d'administration, rien ne s'est arrêté sur le site de la Somaïr. Tout continue au même rythme qu'avant. C'est ce qu'indique en tout cas Ramar Ilatoufeg de la coordination de la société civile d'Arlit et membre de l'ONG Harry Lindman. Alors comment analyse-t-il les tensions actuelles entre Orano et la Sopamine? Élément de réponse au micro de Magali Lagrange.
Je pense que le fond de la question, c'était les relations entre le Niger et la France. Alors, à mon avis, qu'est-ce qui a amené cette situation? Nous sommes depuis 50 ans dans une situation d'exploitation d'uranium qui n'est pas au profit du Niger. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des autorités qui se sont mises en place, qui ont dit qu'il faut que ça profite aux populations du Niger. Le changement du côté de Rano n'a pas voulu s'opérer dans ce sens-là. Et Orano a l'habitude d'avoir tout facilement au Niger. C'est ça le problème.
Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, pour que les relations puissent s'apaiser entre les deux?
Les populations en ont marre. Donc il faut que ça change. Orano doit accepter le fait qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avant est terminé. Il faut changer de mentalité.
Est-ce que par le passé, il y a déjà eu une période de tension aussi marquée entre Orano ou Areva avant et l'État du Niger? Ou est-ce que c'est la première fois qu'on voit de telles tensions?
Non, ce n'est pas pour la première fois. C'est au temps du président Tanja dans les années 2006, je crois, 2007, 2008 jusqu'en 2009. Il y a eu ce genre de tension à propos du gisement du Morarene et à propos du renouvellement de conventions. Mais bon, chaque fois qu'il y a ce genre de tension, dans les années passées, à mon avis, j'ai vu que le président français s'est déplacé pour venir voir le président du Niger. J'ai vu Chirac qui est venu au Niger, j'ai vu Sarkozy qui est venu voir au Niger pour régler des problèmes d'Orano. Chaque fois, ils vont jusqu'au plus haut sommet pour résoudre ça. Cette fois-ci, je ne vois personne venir. Même le conseil d'administration qui se tient, il se tient par vidéoconférence.
Est-ce qu'il y a des repreneurs possibles qui se sont manifestés, des entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour le site?
En tant que connaisseur du milieu minier, j'estime qu'une société minière qui a exploité de l'uranium pendant 50 ans, je ne crois pas qu'il est facile pour elle de se désengager. Il n'y a pas que la production d'uranium, il y a quand même le passé, le passif, les résidus de traitement, tout ce qui concerne ce qui a causé la dégradation de l'environnement qu'il faut gérer après. On ne peut pas s'en aller comme ça. J'espère que Orano est consciente de ses responsabilités sociales et environnementales. C'est surtout de ça qu'il faut parler. Il y a des responsabilités qui sont au-delà de l'uranium qu'on peut produire et tout ça.
Ramar Ilatoufeg de la coordination de la société civile d'Arlit et membre de l'ONG Harry Lindman. Les tensions entre le groupe français Orano et la Sopamine, la société d'État nigérienne. Dossier signé Magali Lagrange. Le Soudan du Sud rejette un rapport, je cite, malveillant sur les entreprises de la famille du président Salva Kiir. The Sentry, organisation de surveillance basée aux États-Unis et spécialisée dans la traque de l'argent de la corruption, affirme avoir cartographié 126 entreprises de la famille Kiir opérant dans des secteurs centraux pour l'économie sud-soudanaise, notamment l'exploitation minière, le pétrole, les banques, le commerce, l'aviation, la sécurité privée et la logistique. Le bureau du président sud-soudanais rejette des allégations sans fondement et malveillantes et déclare que la constitution du pays n'interdisait à aucun citoyen, y compris à ses proches, de se livrer à des activités commerciales. Fin de citation.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Deux jours après la profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba, l'enquête se poursuit en République démocratique du Congo. Hier, Pauline Azidi, les autorités ont donc fait un point sur l'enquête et ont annoncé de premières arrestations.
Selon le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, 6 personnes ont été arrêtées dans l'enquête sur le saccage du mausolée de Patrice Lumumba, ici, en plein cœur de Kinshasa. 2 autres personnes sont actuellement encore recherchées par les services de police. Aucun détail n'a pour l'instant fuité sur le profil de ces 8 suspects. Les autorités policières mettent en avant le secret de l'instruction. Selon une source proche du dossier, ces personnes étaient sur les lieux lors de la profanation et elles sont actuellement détenues pour les besoins de l'enquête. De son côté, la police scientifique est encore en train d'analyser les prélèvements faits sur place. Les autorités attendent les résultats dans les prochains jours. Une enquête suivie de près au ministère de la Culture. La ministre joint ce matin assure que le gouvernement souhaite que les coupables soient traduits devant la justice. Les faits sont trop graves, ajoute Yolande Elébé. Lumumba, c'est un monument et la ministre confie être soulagée que la relique soit-elle en sécurité, même si elle insiste, cela n'enlève rien à l'acte commis et à la désacralisation d'un lieu comme celui-ci. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et puis cette information de dernière minute, des tirs d'artillerie ont retenti à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, ce jeudi 21 novembre à partir de 19h30 heure locale. Ces tirs ont eu lieu principalement autour de la résidence de l'ancien chef des renseignements, le général Akol Kor Cook, dans le quartier de Tompini, démis de ses fonctions début octobre. L'ancien espion en chef du Soudan du Sud était en résidence surveillée depuis. Les échanges de feu auraient éclaté alors qu'il devait être transféré vers un lieu de détention, selon des informations pas encore officiellement confirmées par les autorités sud-soudanaises. Des tirs ont également été rapportés dans plusieurs autres endroits de la capitale sud-soudanaise jusqu'à 20h30 heure locale. L'Afrique du Sud, confrontée à une multiplication de cas d'intoxication alimentaire avec, selon les autorités, au moins 22 décès, dont de nombreux enfants et près de 900 incidents enregistrés depuis le mois de septembre. Le pays compte encore une victime supplémentaire depuis hier, avec la mort d'un enfant de 5 ans à Soweto. Le gouvernement a classé cette crise dans la catégorie de catastrophe nationale. À Johannesburg, le récit de Claire Barjolès.
L'origine de ces intoxications n'a pas encore été officiellement établie, mais les autorités suspectent que la nourriture ait été contaminée par des pesticides habituellement utilisés en agriculture, mais vendus illégalement et employés par de nombreux Sud-Africains pour combattre la présence de rats. Des tests ont été menés dans le quartier de Naledi, où 6 enfants sont morts le mois dernier, et des traces de ces pesticides ont été retrouvées dans 3 spaza shops, ces petites boutiques de proximité, surtout présentes dans les townships. Les autorités précisent cependant que le problème ne se limite pas à ces spaza shop et que ces produits chimiques sont présents dans de nombreux points de vente. Les contrôles des magasins qui vendent de la nourriture devraient être renforcés et plusieurs scientifiques rejoindront bientôt l'équipe ministérielle afin de mettre en place des mesures de prévention sur le long terme. Alors que la colère monte dans les zones où des enfants sont décédés, avec des tensions xénophobes autour de magasins tenus par des étrangers, le gouvernement a mis en garde la population contre la tentation de se faire justice soi-même. Claire Barjolès, Johannesburg, RFI.
En Côte d'Ivoire, la lutte contre la déforestation érigée au rang de priorité nationale. Le pays s'est fixé pour objectif de restaurer son couvert forestier jusqu'à 20% de son territoire d'ici 2030. Pour cela, les autorités luttent notamment contre les cultivateurs installés illégalement dans les forêts classées, les aires protégées et les parcs nationaux. C'est le cas dans la forêt classée de Boisflay, dans le centre du pays. Benoît Almeras, l'un de nos correspondants en Côte d'Ivoire, s'est rendu près de la localité de Bonon. Reportage.
Des deux côtés de la piste qui nous emmène, la forêt n'est en fait qu'une succession de plantations, des cacaoyers, des EVA, des bananiers. Ces parcelles, Guessan Kwame y travaillait depuis ses 14 ans. Il y a 2 mois, les gardes forestiers ont détruit sa maison.
C'est une maison de 6 pièces.
Vous avez habité là pendant 50 ans ?
50 ans. Mais moi, je suis venu le 14 juillet 78.
Guessan était le chef de Deux Côtes, un petit village réduit à un amas de gravats et de tôles froissées. Seul vestige, une pompe à eau installée il y a 4 ans avec l'aide du Conseil Café Cacao. Guessan Kwame dit avoir tout perdu.
Aujourd'hui, bon, on a notre activité tout arrêtée. Ça fait au moins 2 mois, je n'ai plus même 1 centime.
Deux Côtes fait partie d'une douzaine de campements rasés mi-septembre. C'est également le cas de Tengue Kofikro, où se trouvait une école primaire. Pour le moment suspendue, l'opération de l'assaut des forts est rejetée par Constant, l'un des planteurs.
Notre zone, là, c'est une zone, il y a longtemps ici. Déforestation, il y a longtemps, les parents ont fait ça. Les parents avaient planté avant, et comme ça, séché, on est en train de replanter, sinon il n'y a même pas de forêt. C'est pas forêt, c'est des jachères.
Sur les images satellites, une quarantaine de campements constellent la zone classée de 20 300 hectares. De la simple baraque au petit village de 60 cases, ces installations sont entourées de parcelles cultivées. Pour l'assaut des forts, les planteurs déciment les restes de forêts naturelles et les parcelles reboisées. Une cinquantaine d'agents ont été déployés pour évaluer, entre autres, les surfaces déforestées. Le lieutenant Salim Konaté gère la forêt au nom de l'assaut des forts. Lui souhaite que l'évacuation aille jusqu'au bout.
Donc aujourd'hui, la forêt classée de bois frais est dans un état très alarmant. L'année dernière, en 2023, nous avons fait 300 hectares de reboisement. Mais après la mise en place de ces reboisements, ils sont allés décimer tous les 300 hectares de reboisement. Ça fait toujours mal, ça fait toujours mal. Parce que s'il n'y a pas la forêt aujourd'hui, on fait comment? Il n'y a plus de vie s'il n'y a pas de forêt.
D'ici 2030, la Côte d'Ivoire a pour objectif de reboiser 100 000 hectares de son territoire par an. Benoît Almeras, Bonon, RFI.
Il est 18h50 à Bonon.
Et c'est l'heure de retrouver l'ambianceur d'Afrique Soir au rendez-vous. Rendez-vous auquel, quelle que soit l'actualité. Vous avez reconnu donc Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Zéphirin, le retour du Jedi.
En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour votre dernier rendez-vous de la semaine. On va commencer avec le rappeur togolais Ethan Blex et sa chanson Papa Parfait. Il s'agit de moi là.
Oui, et pour le coup, Ethan Blex, nouvelle. Et surprend tout le monde, lui qui nous avait habitué à des textes de rap assez durs. Et dans le morceau Papa Parfait, Ethan Blex s'adresse à son créateur avec l'aide d'un chœur afro-gospel tout de même sur le refrain, ce qui lui donne une dimension plus continentale et grand public. Allez, on écoute Papa Parfait.
Vous voulez que je vous donne mon avis, Hervé?
Oui, je veux bien.
Bah écoutez, hein, j'aime beaucoup Ethan Blex. Et son titre Papa Parfait, ça me parle.
Voilà.
Allez, on enchaîne avec le rappeur gabonais ADB qui réalise, lui, une année 2024 record.
Oui, le rappeur a enchaîné avec une série de 5 titres quasiment à la suite cette année. Et le public semble être enfin au rendez-vous. De bon augure pour le talentueux ADB qui a fait appel à ses acolytes Troy et Jay pour écrire le morceau Mangamba. Et ce n'est pas la première fois que ces artistes-là se retrouvent sur un même morceau. Le style, c'est l'Ancham. Et sa popularité est en train de se répandre de là des frontières du Gabon.
J'ai vu le sang couler. Dernier cachet en tape bâton. Faut que t'es sans colo. Chaque
phrase, une punch dans l'excès. On a encore une énergie différente hein, sur ce morceau du jeune gabonais ADB. À présent, on place à votre traditionnelle séquence rétro du jeudi, Hervé. Séquence consacrée au groupe controversé Milli Vanilli et la chanson Girl, You Know It's True.
Oui, les plus jeunes d'entre nous se souviennent sûrement du groupe Milli Vanilli qui a connu une célébrité mondiale à la fin des années 80, puis une déchéance tout aussi mondiale au début des années 90, quand ils ont dû rendre le Grammy Awards, le seul d'ailleurs de leur carrière, suite au scandale qui a révélé que les deux stars Rob et Fab n'étaient pas les voix que l'on entendait sur les disques. Et cette histoire refait surface au cinéma depuis le mois d'août aux États-Unis dans le biopic Girl You Know It's True, mais également à travers de nombreux documentaires. Allez, retour en 1988. Your skin.
Oui, une chanson qui me rappelle effectivement des souvenirs. Eh bien, c'est déjà l'heure de conclure, mon cher DJ Facemaker. Et c'est au jeune original Ekwa, aux côtés de Gaz Mawete de la République démocratique du Congo, que revient cette responsabilité.
Oui, une lourde responsabilité, d'autant plus qu'original Ekwa est un artiste émergent. L'aide de Gaz Mawete est donc bienvenue pour cela. Les deux artistes proposent le morceau Wapi, sorti le 17 novembre dernier. Une chanson de 4 minutes qui évoque l'histoire d'un cœur brisé qui peine à renoncer à l'être aimé. En d'autres termes, original Ekwa exprime sa douleur sur un rythme zouk love, une expression qui ne nous rajeunit pas.
C'est avec le titre Wapi que s'achève votre chronique de ce jeudi 21 novembre. Très cher Hervé Mondina, alias DJ Facemaker, une sélection, je le rappelle, disponible sur le site RFI Musique.
Oui, on a déménagé, on est maintenant sur le fil musique du site RFI.fr, cherchez l'Afro Club et faites un tour sur les réseaux sociaux de la radio du monde. Rendez-vous la semaine prochaine et je vous laisse en compagnie de Zéphirin Quadio, l'incontournable pour la suite des programmes à l'antenne de RFI ce soir.
Eh bien, merci beaucoup Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, avec à suivre juste après le journal Accent d'Europe, qui nous parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui s'infiltre partout, y compris dans l'église en Pologne, le pays le plus catholique d'Europe. Une église de Poznan dans l'Ouest a installé l'IA pour pouvoir accueillir les fidèles 24 heures sur 24. En plein milieu de la nuit, c'est elle qui peut alors répondre aux questions des pratiquants, comme l'explique le curé à l'origine de l'initiative.
Et on peut même poser des questions plus compliquées, par exemple, qu'est-ce que l'adoration, qu'est-ce qu'une confession, comment procéder pour se confesser. En général, il arrive que l'IA invente des réponses quand elle ne sait pas. Mais nous, on lui a appris à répondre « je ne sais pas, rapproche-toi du prêtre qui pourra t'expliquer ».
Voilà, reportage à retrouver à 19h10 temps universel ou en podcast sur le site de RFI ou l'application Pure Radio. Et puis une demi-heure plus tard, le grand reportage nous invite lui en Ukraine, où plus de 1000 jours après le début de l'invasion à grande échelle du pays par la Russie, eh bien Kiev tente de convaincre des dizaines de milliers de citoyens de rejoindre les rangs de l'armée. Objectif, remplacer les soldats morts sur la ligne de front, permettre des rotations et tenter de réduire le déséquilibre en effectif face à l'armée russe. Or, les volontaires se font rares, les civils qui souhaitaient se battre se sont engagés depuis longtemps, les autres, il faut les convaincre. C'est le cas, par exemple, de Tim, qui a finalement rejoint la 3e brigade d'assaut.
Il y a ce proverbe, enfin un dicton, selon lequel seuls les imbéciles n'ont pas peur de la guerre. Il y a donc une certaine crainte, bien sûr, que vous puissiez être blessé ou mourir ou quelque chose du genre. Mais globalement, tout cela n'est rien devant le fait qu'on doit protéger le pays. Personnellement, je ne veux pas que mes enfants, les enfants de mes frères et sœurs, vivent en Russie. C'est donc une décision évidente pour moi.
Voilà, Ukraine après 1000 jours de guerre, le défi de la mobilisation, un grand reportage de notre correspondant Emmanuel Chaz à retenir enfin à 20h10 temps universel. Couleur tropicale, Claudicia reçoit ce soir le groupe réunionnais PLL, dont la carrière a débuté en 2017 avec le titre Move It. Leur dernière chanson Mondialité est sortie le 20 septembre. Le 28 novembre, ils seront sur la scène du MO Barbara à Paris. On écoute Mondialité.
Il attend la bonne pour mettre la bague au doigt, dis-lui.
Voilà, il est 19h59 minutes bientôt ici à Paris. Ainsi s'achève cette première édition d'Afrique Soir. L'info continue sur Radio France Internationale avec à suivre dans un court instant un nouveau journal largement consacré à l'actualité dans le reste du monde.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans notre émission Questions de femmes, nous parlons de la relation mère-fille. Complicité, rivalité, bienveillance,
mais aussi comment améliorer ce lien en cas de conflit.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Témoin d'actu, le podcast d'infos de RFI. Alexandra Cagnard.
Depuis plus de 40 ans, le prix RFI Découverte aide les talents africains à franchir les frontières. Mais aujourd'hui, les musiques d'Afrique ont-elles encore besoin du marché occidental pour prospérer ? Nous en parlons dans un nouvel épisode de Témoins d'actu avec Vladimir Cagnolari.
Témoins d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h40 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr.